Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International. Dans cette semaine, eh bien, nous allons parler évidemment de l'actualité de la planète football. Et avec, pour commencer cette émission aujourd'hui, le prix Marc-Vivien Fauré 2017 qui est lancé. 13 joueurs africains de Ligue 1 peuvent prétendre à la distinction pour succéder à Sofiane Boufal, le lion de l'Atlas, alors joueur du LOSC récompensé l'an dernier. Ces 13 possibles lauréats représentent 9 pays africains et nous allons vous révéler leurs noms à tous et peut-être aussi distinguera-t-on dans ce groupe des favoris. Il faudra en tout cas patienter jusqu'au 15 mai pour connaître le nom du lauréat 2017 choisi par notre jury. Le Barça a-t-il perdu la couronne de champion d'Espagne? Les Blaugrana, champions en titre, ont en tout cas perdu l'occasion de prendre la tête de la Liga, même pour quelques jours, ne profitant pas du faux pas des Merengues qui ont seulement pu arracher un nul face aux Colchoneros, emmené par un super Griezmann. Et le Classico du 23 avril prochain à Santiago Bernabéu pourrait être décisif pour les deux éternels prétendants à la première place du championnat espagnol. Zlatan, toujours décisif en Première Ligue, le néo-mancunien ne se sent pas, se sent pousser des ailes, en tout cas parce qu'il ne sent pas le poids des ans, le poids de ses 30 ans. Et Ibra marque de plus en plus, ce qui fait les affaires de Manchester United, 5e au classement, et au moment où tous les grands ont gagné leur match en Angleterre, sauf Arsenal qui ne joue que ce soir. Pour en parler de tous ces sujets, invité dans ce studio aujourd'hui, Hervé Penaud, notre confrère de l'équipe. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous tous. C'est pareil, moi j'ai l'impression que le poids des ans, je le sens pas, je rajeunis, je suis un peu Ibra, quoi.
Un peu Brad Pitt peut-être aussi. Cher Guémour, bonjour.
Bonsoir de SoFoot. Oui, bonsoir à tous.
Et puis Salim Bongali d'SFR Sport, bonjour, bonsoir.
Bonjour Annie, bonjour Salim. À toutes et à tous. Et Hervé Penaud, c'est plus Brad Pitt que Zlatan Ibrahimovic, bien sûr.
Merci beaucoup.
C'est flatteur quand même. Et puis Alejandro Valente.
Bonjour, bonjour Alejandro.
Vous auriez vu le visage du Jefe quand vous avez évoqué la défaite de Barcelone.
Ah, c'est pour lui d'ailleurs, c'était un petit peu provocateur comme ça. On donnera, on va donner aussi dans Radio Foot un petit coucou, allez on va dire, à Naomi, peut-être future auditrice de Radio Foot et de son heureux papa Habib Bey. Une bise donc à Naomi, la petite dernière de la famille Bey, et à son petit frère Noah, et ainsi que sa sœur Alia et à la maman. Voilà. Ouais,
surtout à la maman, parce qu'avoir, je vous l'ai dit hein, sur Twitter, avoir 4 enfants comme ça à la maison, ça va pas être facile.
Allez, Radio Foot, c'est parti. Avec les beaux jours revient le prix Marc-Vivien Fauré, notre récompense remise chaque année au meilleur joueur africain du championnat de France de Ligue 1. L'an dernier, le Marocain Sofiane Boufal, révélation de l'équipe de Lille, avait remporté ce prix. En Ligue 1, ils sont en gros une centaine de joueurs africains à disputer le championnat. Certains s'illustrent plus que d'autres. Et pour cette saison 2016-2017, eh bien, nous avons Alejandro Valente, une liste de 13 noms pour représenter 9 pays africains.
C'est vrai, c'est une liste assez variée. Après, on peut toujours discuter. Effectivement, c'est une liste qu'on a fait en interne afin de faciliter le travail du jury, car sans nom, c'est un peu compliqué.
On a un Marocain qui a déjà été lauréat, d'ailleurs.
Voilà, c'est le seul ancien lauréat, c'est Younes Belhanda, effectivement, qui est revenu en Ligue 1, parce qu'en général, tous les joueurs qui gagnent le prix Fauré finissent par partir.
Il y a un billet d'avion à la clé, apparemment, voilà, une mutation.
Oui, on a eu une exception avec notre ami le gardien de Lille,
Enyama, qui est toujours là,
qui avait gagné en 2013, si ma mémoire est bonne. Et les gardiens, bon, c'est plus compliqué pour qu'ils partent, donc voilà. Mais sinon, en général, donc on n'a pas beaucoup de revenants, même si dans le passé Gervinho l'avait gagné à deux reprises.
Enyama, c'était 2014 en fait.
2014, hein. Voilà, c'est en général assez rare. Alors, vous avez dit 9 pays. Il y en a un qui s'illustre parmi tous, c'est la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a trois Ivoiriens dans la liste. Alors, un défenseur, Serge Aurier du Paris Saint-Germain, un milieu de terrain, Jean-Michel Seri de Nice, et puis l'attaquant Giovanni Sio de Rennes. Il y a deux pays qui comptent deux représentants. Il y a le Cameroun avec Benjamin Moukanjo de Lorient et Karl Toko et Kambi d'Angers. On a deux représentants également du Sénégal, Famara Diédiou d'Angers et Cheikh Ndoye Ndoye d'Angers également. Et puis les autres pays n'ont qu'un seul représentant. Il y a l'Algérie avec Riyad Boudbouz à Montpellier, le Bénin avec Steve Mounier à Montpellier également, Burkina Faso, Steve Yago, Toulouse, le Cap-Vert avec Julio Tavares qui évolue à Dijon, et la Guinée avec François Camano de Bordeaux. Younes Belhanda, on l'a déjà cité, donc c'est le seul Marocain dans cette liste. Alors, 9 pays, c'est 9 clubs différents également. Angers est celui qui apparaît le plus souvent avec 3 mentions. Montpellier et Nice en ont 2 chacun, les autres une seule. Donc voilà pour la liste. Et évidemment, le jury qui est composé d'une centaine de personnalités, des journalistes très pointus comme ceux que nous avons autour de la table vont faire leur choix. Et en attendant, les auditeurs et les internautes peuvent participer à un jeu qui est organisé sur le site de RFI et qui leur permettra d'essayer de deviner les choix du jury.
On vous dira tout à l'heure des détails de ce vote ouvert à vous, hein, auditeurs et internautes. Mais d'abord, Hervé, un petit mot sur cette liste. Alors, peut-être que ça pourrait nous prendre à défaut, mais vous trouvez qu'il manque quelqu'un ?
Non.
Vous auriez fait à peu près cette liste-là ?
Non, je pense que la liste est assez complète. Alors évidemment, après, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire « Ah ben, j'aurais bien aimé Issardia, la place de
un petit Ghezal, mais bon.
Bon, Ghezal,
pas saison complète.
Ouais, Ghezal, mais il n'a pas fait une grosse saison non plus.
Hein, il y a aussi ce qu'ils font dans leur sélection nationale.
C'est un nom. Je vous dis Issardia, parce qu'on peut se dire que comme en ce moment il est en train de porter un peu l'équipe de Nancy. Enfin, vous voyez, après, vous êtes bien obligé de faire des choix. À un moment, soit vous donnez une liste de 25 joueurs, et c'est à un moment faut réduire. Donc voilà, moi ça me paraît tout à fait logique. Je suis content qu'on n'oublie pas des joueurs dont on parle moins, mais qui ont des rôles capitaux. Je pense par exemple à Tavares pour le joueur du Cap-Vert dont on parle absolument jamais, mais qui est vraiment très important dans cette équipe de Dijon, une équipe qui lutte pour pas descendre. Et puis des jeunes qui arrivent. Hein. Moi, je suis content de voir un Mounier parce que vraiment il fait une saison très intéressante avec Montpellier. On a hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Et un Camano, évidemment, le Guinéen, qui est le plus jeune de la liste et qui est vraiment un espoir et depuis quelques mois qui monte vraiment tout son potentiel à Bordeaux.
Mounier, Camano, Mouret. Enfin, l'émergence ces derniers mois, ouais, tout à fait, ouais.
C'est bien d'Armi Aurier, je suis assez content parce que je pense que ça va susciter débat. Là, je pense que les internautes, on va voir ce qu'ils vont dire sur les réseaux. Mais je pense que quand vous jouez au Paris Saint-Germain, quand même, il faut pouvoir avoir sa place là-bas, il faut avoir une qualité pour jouer. Alors que vous soyez complètement titulaire ou pas, je pense qu'Aurier, il mérite largement sa place dans ses presses.
Presque, au vu des derniers temps, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, on va dire, parce que c'est vrai qu'il s'était illustré jusqu'à présent beaucoup plus sur le terrain qu'en dehors. Alors, Salim.
Déjà, je salue vraiment le service des sports de RFI puisque cette liste est au final très éclectique. Alors, mis à part un gardien qui n'est pas là en l'occurrence, mais sinon défenseur, milieu de terrain, attaquant, tout le monde est représenté dans cette liste. Et puis c'est vrai que je complète le propos d'Hervé, personne n'est oublié. On regarde aussi les équipes qui sont en haut de tableau, forcément. Bon, PSG, vous l'avez évoqué, Nice également avec Jean-Michel Seri, on aura l'occasion d'évoquer lui qui fait une saison assez folle. Si Nice en est là, il n'est
ne
pas innocent.
Ne dites pas pour qui vous allez voter.
Non, c'est une saison aussi folle, c'est une
indication. Voilà, il y a des faits à un moment donné. Et puis il y a d'autres joueurs. Hein. On parle de Benjamin Moukandjo dans cette liste. Alors c'est vrai qu'il a une saison délicate avec Lorient, mais il est en train de faire une fin de saison avec ce FCL justement.
Il va peut-être les sauver.
Exactement, la
pas
fameuse Lorientada
qui a été
évoquée par Loïc Ferry, le président d'Orient. Donc ça fait partie de ces joueurs qui en plus a été récompensé avec la sélection nationale. Vous évoquiez aussi la sélection du Cameroun. Bref, c'est une liste qui est très agréable. Et honnêtement, alors, bon, ok, d'ailleurs, est-ce qu'on peut le dire à l'antenne ? Est-ce qu'on peut l'évoquer ? Peut-être des préférences. Bon,
oui,
j'ai une préférence,
sûr,
voilà. Je vais pas le nier. Quand on voit cette liste, quand on observe cette liste, c'est vrai que Jean-Michel Seri me paraît... Par séquence, en tout cas, tellement au-dessus. Après, il y a d'autres joueurs qui peuvent effectivement concourir. On pense autant à Younes Belhanda. On parle de Nice, le Marocain.
Oui,
il est
aussi.
Là et en plus, il a déjà remporté ce titre. Et puis d'autres joueurs qui montent. Cheikh Ndoye, qui avec Angers déjà la saison dernière, aurait pourquoi pas mérité d'être
positionné. Il était deuxième
là.
D'ailleurs l'an dernier.
Était,
hein,
oui, exactement, et d'être positionné en tant que premier. Et bien là, il est encore présent. Enfin voilà, c'est une liste vraiment particulièrement intéressante.
Vous dites, vous parlez de Younes Belhanda. On a eu dans ce prix Marc-Vivien Fauré déjà un joueur qui a remporté deux années de suite le titre, et c'était Gervinho. Autre, c'était un Ivoirien, pardon. Et d'ailleurs, on voit dans la liste Alejandro Valente du palmarès de ceux qui ont gagné ce prix Marc-Vivien Fauré auparavant. Il y a des nationalités qui reviennent quand même. On a 3 fois trois attributions à un Marocain. Marwan Chamakh, c'était la première fois en 2009, de ce prix imaginé par David Kalfa, hein, l'un de nos camarades du service internet de RFI et de AfriqueFoot.fr. Et puis il y a aussi eu ensuite Younes Belhanda, on l'a dit, quand il jouait encore à Montpellier, et puis Sofiane Boufal, donc trois Marocains, deux fois la Côte d'Ivoire, mais là c'était effectivement deux fois le même joueur. Et puis on a eu le Nigeria, distingué donc avec Vincent Inyama, le Ghana avec André Ayou l'an dernier, et le Gabon avec Pierre-Emerick Aubameyang.
Et jamais les Cameroun, jamais les Sénégal, alors qu'il y a
encore
quand même jamais l'Algérie. Une belle présence là, et jamais l'Algérie, absolument.
Ouais. Mais un parent, finalement, c'est ça aussi qui limite le choix, Chérif. Est-ce que vous avez, comme Salim Bongali, un, disons, qui se distingue dans cette liste de vos préférences?
Ouais, on n'a pas arrêté de s'envoyer les coups de coude, évidemment, sur le nom Jean-Michel Seri, parce que non seulement il confirme, mais on voit que surtout depuis la blessure de Cyprien, c'est encore lui qui tient le milieu. À la différence, par exemple, de Petit Kozielo, qui a un peu disparu, Seri est encore là. C'est vraiment lui qui anime le milieu. Et c'est pas évident, parce que justement, il n'y a plus Cyprien. C'est vraiment la... Et il confirme, hein, parce que c'est ça le plus dur. Donc après, il y a... j'aimerais bien aussi...
Oui, parce que l'année dernière, il avait fait une excellente saison, et on en parlait déjà.
Et puis après, il y a ce qu'on appelle les joueurs de club. J'apprécie le boulot que fait Boutboust, par exemple, à Montpellier. C'est pas une super équipe, il fait pas une saison extraordinaire non plus. Mais il est encore là, encore une passe décisive, des coups francs, des pénaux. Et c'est pareil pour Cheikh Ndiaye. Il marque beaucoup moins que la saison dernière. Ouais. Mais pareil, il tient la baraque avec du côté d'Angers. Tous ces joueurs-là, en fait, qui sont là, mais qui... comment dirais-je, c'est des joueurs de club, c'est des joueurs d'équipe et qui font encore un boulot assez énorme.
Mmh. L'abattage essentiel.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Après,
il y a les petits jeunes. Après, les petits jeunes qui montent. On a parlé aussi de Tavares, tout le bien qu'il fait et tout. Mais après, bon, Camano, ça vient d'éclore, donc ça me paraît un peu tôt. C'est pareil pour Steve Mounier avec Montpellier.
Avec Toulouse. Donc,
c'est ça.
Steve Mounier, oui.
Donc voilà, quoi. C'est, après, pour le reste, on connaît un peu.
Salim, me permettez-vous d'être taquin avec la liste tout de même? Allez-y. Parce qu'il y a un homme, je sais que Hervé l'a évoqué d'ailleurs, Serge Aurier. Alors oui, Serge Aurier, effectivement, il est au Paris Saint-Germain. Effectivement, il est avec l'équipe nationale, puisqu'effectivement, on salue aussi le parcours à chaque fois avec l'équipe nationale. Et il est dans cette formation. Cependant, depuis un certain temps, désormais, il a perdu sa place de titulaire avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il ne joue plus. Thomas Meunier a pris sa place. Enfin, à un moment donné, Serge Aurier, faut peut-être se poser des questions, peut-être, à un moment donné, Hervé.
Oui, mais moi, j'estime que le fait qu'il soit déjà au Paris Saint-Germain, qu'il est quand même... Alors, c'est vrai qu'il n'est pas titulaire depuis la CAN, mais il n'empêche la CAN, c'est aussi un peu cassé un élan pour certains joueurs. D'ailleurs, certains, ça les a relancés, puis d'autres, ça a eu tendance un petit peu à les faire plonger. Notamment Moukandjo, par exemple, qui a eu beaucoup de difficultés à se remettre, et depuis 2-3 matchs, maintenant, il vole. Mais l'après-CAN, tout de suite l'après-CAN, ça a été un peu difficile. J'en avais discuté avec lui. Et Aurier, je pense quand même que ça reste un joueur important, l'un des 15 titulaires, si je disais qu'il y avait 15 titulaires, de l'équipe du Paris Saint-Germain, qui est quand même une équipe qui domine largement le championnat de France.
Donc
avec
vous
Monaco.
Voulez dire qu'il est plus difficile de jouer titulaire avec le PSG qu'avec Dijon, par exemple?
S'il était à Dijon, il serait titulaire indiscutable, il serait un titulaire indiscutable dans toutes les équipes,
même à Monaco. La réalité, c'est que statistiquement, il a pas mal joué, finalement, yesterday. Bah, parce que bon, souvent, il y avait des blessures et tout. Par exemple, il joue hier soir, il fait un match correct, voilà, mais c'est juste ça.
Après, si vous me permettez, en termes de matchs, il a joué. Après, c'est la qualité des matchs de Serge Aurier cette saison, où il est quand même intrinsèquement
Meunier
en dessous de ce qu'il a pu faire sur les dernières saisons.
Salim, Meunier est au-dessus. Sauf que bon, voilà, il n'a pas joué tous les matchs et tout. Et Aurier n'a pas fait que les catastrophes.
Mais il est logique qu'il soit quand même pas dans une liste des meilleurs joueurs africains qui évoluent en Ligue 1. Ça, moi, j'aurais été choqué que lui n'y soit pas, en tout cas.
Bon, donc le service d'espoir a fait son travail.
Il a fait son travail, comme de mettre Sio d'ailleurs, parce que là on parlait de joueurs de club. Ben, moi je trouve qu'on pointe pas assez souvent le travail d'un joueur comme Sio, qui est peut-être pas un grand attaquant, c'est pas Drogba évidemment, mais il n'empêche que c'est quelqu'un de très utile, qui sait jouer de haut but. Aller dans une équipe comme Rennes, où là je peux vous dire que c'est pas évident d'y aller jouer comme attaquant de Rennes. Ben, il a pas un sacré boulot.
Ouais, il avait commencé neuf et ça. Pas, de toute façon, il voulait pas. C'était pas son poste avec Gourcuff, mais. Personnellement, j'en attendais mieux de Sion cette année. Voilà, c'est tout. C'était pas le.
En tout cas, maintenant, ce sera au jury de travailler. Voilà. Et comme on est en période électorale ici en France, bon, il faut rappeler qu'il y a un seul tour.
Le lobby. Ah oui, là, il y a qu'un seul tour.
Alors la force du peuple, c'est qui là, là
En tout cas, c'est vrai que les joueurs, quand on les déjà quand on leur dit qu'ils sont sur cette liste, hein, Alejandro Valente, quand ils le savent, notamment grâce à notre service de communication qui communique ça au club, ils se sentent distingués. Mais il y a aussi, eh bien, lorsqu'ils reçoivent le prix, et on va entendre eh bien deux des derniers lauréats de 2015 et de 2016 évoquer leur plaisir lorsqu'ils se retrouvent prix Marc Vivien Fauet.
Je suis très honoré de recevoir ce titre aujourd'hui. C'est un titre, je pense, très important pour tout joueur africain évoluant en France. On sait tous que dans le championnat français, il y a de très bons joueurs africains et c'est de là où souvent tout commence pour les joueurs de notre continent. Alors voilà, je suis très honoré. J'ai souvent été proche, mais aujourd'hui, ça a été la bonne année.
Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est avant tout une fierté d'être élu meilleur joueur africain. Et puis, c'est une récompense individuelle et c'est une récompense qui m'a fait plaisir à moi et ainsi qu'à toute ma famille. Ça me fait plaisir de recevoir ce trophée, surtout venant d'un grand frère, parce qu'en Afrique, on dit souvent grand frère. Et puis voilà, j'espère lui rendre hommage encore plus par la suite lors de mes prochaines saisons.
Vous avez donc reconnu les voix ?
Absolument.
Sofiane Boufal et André Ayou qui le précédaient. Sofiane Boufal qui fait donc, parle du grand frère, de ce grand frère, et en fait il le cite pas, mais c'est Marc Vivien Fauet. Marc Vivien Fauet, hein, Alejandro, il y a quelques années, on avait donc décidé de donner le nom de ce grand joueur.
Oui, ça nous paraissait que c'était les joueurs peut-être qui incarnaient mieux la valeur de ce que le football africain apporte au championnat de France. C'est quelqu'un qui est resté dans toutes les mémoires, malheureusement aussi, pas seulement pour son talent, mais aussi pour sa fin tragique. Et cette année, en plus, on a une Coupe des Confédérations qui va se dérouler
avec la participation
avec le
Cameroun,
en Russie en cette année. Donc ça va être encore l'occasion de penser, d'avoir une pensée pour lui.
Alors l'année dernière, vous aviez envie de dire un petit mot sur Sofiane Boufal, parce que ce qu'on peut se dire peut-être, ou se demander, c'est est-ce que ce prix aussi distingue finalement des futurs bons joueurs, pas forcément des grands joueurs, mais des bons joueurs, Hervé.
Ah oui, mais c'est toujours des très bons joueurs.
On voit Pierre-Emerick Aubameyang, c'est vrai que 2013...
Gervinho, Boufal, le problème, il a été fauché un peu dans son élan par une blessure, blessure qui l'empêchait de montrer.
Mais à Southampton...
Là on parle que de grands joueurs, joueurs qui honorent le football africain, et c'est une très bonne initiative de votre part d'avoir donné le nom de Marc Vivien Fauet depuis le début, parce que je pense que c'est effectivement celui qui symbolise le mieux et le plus peut-être, à la fois le côté sportif et hors terrain, j'allais dire, et puis mort dans des circonstances absolument incroyables sur un terrain de football. Donc évidemment, je trouve que c'est magnifique d'avoir pensé à lui, à son nom, et puis je pense à sa femme là en ce moment, puisque je la connais bien aussi. Voilà, un petit bisou à Marie-Louise aussi.
Et vous évoquez ces titres et ces récompenses. Enfin oui, ce sont effectivement des joueurs, des grands joueurs. Boufal, donc on a l'exemple, même s'il a eu des difficultés. André Ayou, pareil, lorsqu'il est arrivé à, non pas à son team, mais à West Ham, là, cette année, il a eu sa grave blessure dès le début de la saison, donc il n'a pas pu démarrer sa saison comme il le fallait avec West Ham. Mais ce titre récompense vraiment des joueurs qui
ont la
possibilité.
Oui, et puis on l'a vu par exemple surtout, à la CAN avec les Black Stars. André Ayou est toujours l'un des joueurs les plus importants.
Exactement, et surtout ont le niveau, ces joueurs-là, quand ils sont récompensés, de jouer dans les plus grands championnats étrangers. Gervinho en Italie, André Ayou ou Boufal en Angleterre. Donc oui,
c'est logique que c'est en Allemagne.
La petite différence qu'il y a avec une certaine époque, si vous voulez, c'est que les meilleurs joueurs africains qui jouaient dans le championnat de France maintenant s'exportent. Ouais. C'est-à-dire qu'un Sadio Mané joue à Liverpool, un Naby Keita par exemple aurait pu être, lui logiquement aurait dû être dans le championnat de France puisqu'il a joué à Arles.
Mahrez
par exemple, mais Mahrez lui a eu du mal à percer au départ. Mais un Naby Keita, on a vu qu'il avait du talent, il jouait dans un petit club français. Ouais. Hein, et puis hop, il part tout de suite à Salzbourg. Alors que lui, ça aurait pu être un joueur qui aurait pu faire un petit peu un début de carrière ici. Naby Keita, un superbe joueur aussi guinéen.
En tout cas, ce prix, auditeurs et internautes, vous pouvez y participer en votant alors jusqu'au 21 avril. Et les internautes peuvent voter pour les trois joueurs préférés, leurs trois joueurs préférés, tant sur France24.com que évidemment sur le site RFI.fr et sur les réseaux sociaux, et en utilisant le mot dièse, vous le savez, hein, Fauet 2017. Et puis ceux qui auront deviné le trio de tête qui sera dégagé désignés par le jury, eh bien, ils seront tirés au sort pour remporter des maillots collector, hein, comme on les appelle, c'est-à-dire des maillots exceptionnels, imprimés juste pour cette occasion et avec le logo aussi de Radio Foot International. Floquet donc, prix Marc Vivien Fauet. Et ça sera pour 2017, cette édition. Vous avez le droit de voter, vous êtes même obligé de voter, cher Hervé. N'est-ce pas Chérif, n'est-ce pas Sally, mais n'est-ce pas Alejandro? Et ensuite, eh bien, on vous donnera la réponse. Ce sera le 15 mai prochain au cours d'une émission exceptionnelle comme vous en avez l'habitude. A tout de suite après les infos.
Présidentielle 2017.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans la deuxième partie de l'émission avec Chérif Guémour, Salim Boumgali, Hervé Penaud et avec Alejandro Valente. Hervé toujours présent et toujours plein d'allant.
Toujours en mode Brad Pitt. Ouais, absolument.
Pour partir vers l'Espagne, ça vous dit?
Allez, un petit tour en Espagne.
Allez, un petit tour de flamenco.
Ya viene bajando, se ahuecó bien Tevez, está habilitado Messi, acá está Messi, a colocar, ¡qué golazo Messi! ¡Golazo!
¡Oh! ¡De Superman! Para cerrar la victoria más dulce del Madrid.
Copa, attention, avec Correa, balle de but, Griezmann, l'égalisation pour l'Atlético de Madrid, alors que le match s'endormait côté Colchonero. Eh bien, voilà une équipe qui ne renonce jamais. Le talent d'Antoine Griezmann pour finaliser, un but partout à 5 minutes de la fin.
Ce coup de grisou, ce but d'Antoine Griezmann a bien failli tout changer en Liga. Cette égalisation de l'Atlético face au Real a fait que durant 2 heures, dos à la Saint, Alejandro Valente, eh bien, les champions d'Espagne en titre étaient premiers devant le Real. Avant de perdre leur match, aurait pu être premier, aurait pu être premier pendant 2 heures, potentiellement.
On l'a tous vu comme ça. Hein.
Et puis, patatras, devant Malaga, juste classé 14e de la Liga, eh bien, le FC Barcelone de Messi, de Neymar, de Suarez a perdu sur le score de 2-0. Mais pour l'entraîneur de ces Blaugrana, tout n'est pas encore perdu.
Nous avons loupé une opportunité pour le championnat, mais il reste beaucoup de matchs jusqu'à la fin de saison. Je trouve que nous avons bien joué, nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Le résultat est injuste.
Alors évidemment, c'est un langage diplomatique pour pas trop lâcher ses joueurs en race campagne. Alejandro déjà qui va les lâcher à la fin de l'année. Luis Enrique dit que tout n'est pas perdu. Mathématiquement, c'est sûr.
Disons que c'est très compliqué maintenant pour Barcelone. Il faut déjà gagner le Clasico à Madrid. C'est condition obligatoire. Et même en gagnant ce Clasico, il y aura un déficit de 3 points. C'est-à-dire qu'il faudra que Barcelone fasse 3 points de plus que le Real, alors qu'il reste, il va rester à ce moment-là 5 journées à disputer, une de plus pour le Real.
Voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont devant au classement avec 3 points d'avance, mais potentiellement 4 ou 6, ou ouais. Bon, peut-être.
Après,
on
sait combien les choses peuvent peser psychologiquement. On se rappelle, l'année dernière, Barcelone était très confortablement installé en tête. On pensait que le Clasico allait être une formalité qui allait les propulser vers les titres. Le Real avait gagné au Camp Nou. Et du coup, tout s'était déréglé à Barcelone et on avait failli avoir une remontada au classement du Real Madrid assez incroyable. Donc, tout est encore possible, si on veut.
Après, vous l'avez dit, Réfé, vous avez utilisé un mot, le confortablement. La saison dernière, le Barça avait tant d'avance que, alors, il s'était un petit peu relâché et avec les conséquences que vous avez évoquées.
Ils pouvaient se le permettre.
Exactement.
Alors.
Là, aujourd'hui, avec les 3 points d'écart, alors, évidemment, il y aura la Ligue des Champions qui comptera aussi en termes de fatigue,
on en parlera.
Mais aujourd'hui, le Real ne peut pas se permettre ce relâchement, justement, ce qui est presque bien, au final, de n'avoir que 3 points d'écart pour l'équipe.
Oui, mais on se rappelle que, par exemple, parmi les équipes à affronter, il y aura les Celta Vigo. À Vigo, on sait que les Celta, c'est l'équipe qui les avait éliminés en Coupe du Roi. Donc, c'est pas une formalité. Mais bon, déjà, aller gagner à Bernabéu, c'est pas une mince affaire pour Barcelone. Donc, et puis, rien ne dit que Barcelone va engranger la totalité des points qui lui restent. On a vu à quel point cette équipe, dès qu'on sort des titulaires, est fragile. Parce que c'est encore une fois le problème qui s'est posé face à Malaga.
C'est la 4e défaite de la saison et par rapport à des équipes qui sont classées en 2e bas de tableau, finalement. Et qui les piègent ou qui les gênent, en tout cas. Chérif.
Ça, c'est un accident, mais le débat est très intéressant.
Quatre fois quand même ça s'est passé, donc c'est plus qu'un accident.
Ouais, mais on n'a pas vu. Ouais, mais on peut parler aussi du 4-0 qu'ils ont pris. Ils ont des trous d'air, le Barça. Ils sont plus aussi dominateurs qu'ils ont pu l'être. Ça n'arrive jamais, par exemple, au Real. Enfin, à se prendre 4-0, alors des
Oui,
des
mais la différence, c'est que le Real a un banc très, très, très intéressant. Tandis que Barcelone, dès qu'on sort des titulaires, on a vu André Gomes, encore une fois, Denis Suarez, etc. Mathieu, c'est pas le même niveau.
Surtout quand on se retrouve à 10. Mais le débat est intéressant, je disais, parce que justement, c'est là qu'on voit la grande qualité du championnat d'Espagne. C'est que, voilà, on a trois locomotives. Ces trois locomotives que sont le Barça, le Real et l'Atlético. Ça veut dire que déjà, dans la saison, en championnat, ils ont quatre matchs niveau Ligue des Champions programmés. Et on l'a encore vu samedi après-midi. Pour ceux qui seraient un peu déçus et tout, c'est niveau Ligue des Champions. C'est d'une intensité de la première à la dernière minute. Voilà, il y a 1-1 parce que c'est deux équipes qui se valent, qui ont à peu près le même niveau. À ces quatre matchs-là, les trois locomotives, elles doivent, après, si à peu près six matchs, notamment à l'extérieur, c'est quoi? C'est jouer à Valence, jouer au FC Séville, à Vigo, parce que c'est pas gagné. Donc voilà, la qualité du championnat d'Espagne, c'est qu'il y a trois locomotives qui font déjà quatre matchs de Ligue des Champions, plus six matchs de niveau européen. Et c'est là qu'on voit toute la qualité par rapport au PSG. Par exemple, le PSG, cette année, ils ont quoi? Ils ont un match de niveau européen contre Monaco, peut-être deux, mais c'est tout, ça s'arrête là. Oui,
c'est que dommage que l'arbitrage ne soit pas du même niveau. Hein.
Toujours.
C'est un peu ce que pointait Luis Enrique.
Pas toujours.
On va y venir après, l'arbitrage.
Et la deuxième chose, c'est la Ligue des Champions. On a vu que depuis la décima, le Real Madrid est reparti dans sa mystique de Ligue des Champions, mais qui était tout à son honneur. C'est là qu'on comprend ce que ça veut dire. Ils ont gagné la 10 et la 11. Et là, on arrive dans la dernière ligne droite et on va peut-être avoir un aperçu contre le Bayern. C'est que, décidément, il y a quelque chose qui les attire plus qu'autre chose, c'est la mystique de la Ligue des Champions qui peut éventuellement leur faire perdre pied en championnat.
Alors que cette année, on pense que la mission de Zidane,
la
numéro 1,
c'est gagner le championnat, parce qu'ils n'ont pas gagné depuis au moins 5 ans. Ils n'ont pas gagné depuis 5 ans. Mais voilà, il y a la petite musique, pardon.
Moi, je pense qu'ils vont sauter en Ligue des Champions. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que le Bayern, c'est plus fort cette année.
En tout cas, on a vu.
Pense à la mystique Ligue des Champions du Real.
C'est
un truc qui les transcende, mais.
C'est vrai.
T'as raison.
Demande à l'Atlético.
Mais j'ai quand même l'impression que ça va être un peu plus dur cette année pour le Real en Ligue des Champions, alors qu'il y a un objectif majeur. Il y a l'objectif majeur qui est quand même le championnat.
Et
j'ai du mal à imaginer que cette équipe trébuche sur la fin. Parce que je pensais qu'hier, c'était une vraie occasion pour Barcelone de revenir.
Tout le monde
là, ils ont grillé un joker.
Ce qui est intéressant, c'est que pour Zidane, il y a quand même visiblement une grande difficulté, c'est de pouvoir sortir du terrain un membre de l'attaque de la BBC, comme on l'appelle, alors que cette année, le moins qu'on puisse dire, c'est que Ronaldo n'est pas le Ronaldo qu'on a connu, que Bale n'est pas non plus le Bale auquel on a l'habitude, mais quand il sort un joueur, il sort pas un de ceux-là, il sort Kroos, qui était celui qui tenait un peu la baraque, et on a vu conséquences pour le Real, puisque l'Atlético est revenu dans le match.
Oui, mais peut-être que pour continuer sur deux tableaux, le Real a le banc que n'a pas Luis Enrique, parce que vous vouliez parler de ce banc.
Sûr,
en vue, la Ligue des Champions, on le rappelle, il joue demain à Turin en plus, face à la Juventus, et c'est jamais simple. Alejandro, il a voulu faire tourner Luis Enrique et il ne peut pas faire tourner,
il veut toujours le faire. Le problème, c'est que les joueurs, et surtout au milieu, mais même en défense, bon, il y a Piqué qui était suspendu, de toute façon, donc il a mis Mathieu, on met André Gomes, on met Denis Suarez, pour jouer dans le rôle d'un Iniesta, par exemple, ou d'un Rakitic, c'est pas du tout le même niveau. La comparaison n'est même pas envisageable. Donc, c'est une énorme difficulté pour Luis Enrique, parce que soit il fait jouer tout le temps les mêmes, et on sait que ça peut pas se faire. Il est obligé de tourner. Il s'est fait critiquer parce qu'il met des joueurs qui sont pas les meilleurs. Et c'est un énorme problème qui est lié au recrutement qui était décevant cet été.
C'est ça, le problème, il est là. Parce que quand on dit vous avez un bon moins bon, mais il n'y a pas de logique à avoir un bon moins bon quand vous êtes Barcelone. Je sais qu'ils avaient été impactés effectivement par l'UEFA.
L'interdiction de recruter.
Mais il n'empêche qu'ils ont, acheté des joueurs très chers, qui ne sont pas très bons. C'est tout simplement
André
ça.
André Gomes, c'est-à-dire
Thuram n'a toujours pas percé,
C'est-à-dire que c'est soit des erreurs de recrutement, soit des recrutements qui n'ont pas fonctionné. Parce que parfois, vous pouvez prendre un joueur, ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas vous attendre à ça. C'est pas de dire, parce que quand on dit ah le banc est moins bon, ça sous-entendrait que comme ils ont un peu moins d'argent, un peu moins de moyens, donc il faut qu'ils fassent avec leur
moins bien choisi.
C'est qu'ils ont ils ont créé une équipe, un groupe qui est moins fort.
Mais d'ailleurs sur certains sites circule une espèce de liste noire de Messi, c'est-à-dire les joueurs avec qui il a pas envie de jouer et avec qui et qu'il n'aimerait pas voir rester au FC Barcelone.
Oui, mais est-ce qu'il y a pas un peu du domaine du fantasme?
On prête toujours à Messi des choses qu'il ne dit jamais.
Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu le domaine du fantasme, c'est-à-dire qu'à un moment Messi est tout. Messi, à un moment, c'était l'entraîneur. Il n'était pas content.
Il n'est pas tout.
Je pense qu'il est tout sur le terrain, en tout cas beaucoup, mais il faut peut-être pas lui accorder une part aussi prépondérante dans la vie extrasportive. C'est quelqu'un qui a du poids, parce que vous êtes Messi, donc vous avez du poids, mais faut pas croire non plus qu'il est en train de récurer les vestiaires. Si vous voulez, à un moment, il fait pas tout.
Non, mais par contre, il peut choisir ses partenaires.
Il faut, c'est vrai, les futurs partenaires. Il faut, cette année encore, comme les dernières saisons, dire aussi que la Masia ne fournit plus comme elle a fourni depuis plusieurs saisons.
Encore que Denis Suarez vient de là, Alejandro.
Ah oui, absolument. C'est quelqu'un qui était venu et qu'ils avaient laissé partir et qu'ils ont récupéré. C'est vrai qu'il y a eu des graves défaillances au niveau du recrutement et aujourd'hui Barcelone le paye directement. Après, on a pu ajouter l'expulsion de Neymar qui est venu perturber une équipe qui essayait de revenir.
Il y a tout de même un homme qui va vraiment compter dans ce duel, que ce soit en championnat et également en Ligue des Champions, c'est Pepe. Le fait qu'il se soit blessé pour autant de semaines avec le Real Madrid,
qu'il soit a priori à la fin de la saison,
Pepe, son absence va compter notamment et impacter la défense centrale du Real.
Et Varane est blessé lui aussi.
Varane est blessé, vous allez devoir tenir avec Ramos et Nacho à ses côtés.
Et on a vu la différence avec Nacho Pepe. Ouais.
Ramos Nacho, c'est pas Ramos Pepe. Ça peut compter dans les matchs face à Barcelone et également avec des champions pour le Real.
Surtout sur la vitesse, Pepe, c'est lui qui va chercher Griezmann parce que Ramos peut plus le rattraper. C'est
Et justement, Alejandro, vous y faisiez allusion, il y a eu un fait de jeu eh bien, qui peut aussi hypothéquer les prochains matchs du Barça. Écoutons.
Neymar, le contre aurait pu lui être favorable. Oh, attention, eh oui, ça va faire rouge, ça va faire carton rouge pour Neymar. Le deuxième carton jaune sorti de la poche de Monsieur Gilles Manzano. Cette soirée qui est en train de tourner au cauchemar pour le Barça.
Eh bien, elle a viré au cauchemar cette soirée parce que Neymar a été exclu sur carton rouge. Une exclusion un peu sévère, Hervé ?
Oui, enfin bon, le problème...
Alejandro pense que oui, c'est pour ça que je n'ai pas posé la question d'ouverture.
Je pense que le premier carton jaune était sévère, le deuxième
était mérité. Il sait qu'il en a un, donc après vous devez vous contrôler. Le problème de Neymar, c'est que c'est un nerveux. Non mais c'est pas la première fois qu'on le voit s'énerver de cette manière-là.
Mais souvent les gens du Barça, vous avez remarqué quand même, quand ils perdent et qu'ils sentent que vraiment c'est... Non mais que c'était surtout par rapport, on voit en Ligue des Champions et tout, dans le contexte que c'est le jour où il faudrait pas qu'ils perdent, et du coup ils s'énervent.
Après vous avez vu dans ce match quand même Messi surtout, mais aussi Neymar, se sont fait fortement massacrer.
Mais ça n'empêche pas que Neymar
a été très conciliant avec ça.
Ça n'empêche pas que ça fait partie de son tempérament. On l'a vu aussi avec le Brésil. Rappelons-nous
mais
avec le Brésil.
Mais c'est son premier carton rouge avec les Blaugrana quand même. Hervé,
donc mais on l'a vu quand même au Brésil. On l'a vu deux trois fois. Je me souviens Neymar qui avait donné un coup de pied à un joueur. Il n'avait pas été expulsé effectivement, mais il avait donné un coup de pied à un adversaire. Mais s'il n'y a pas tout à fait le même type de réaction, c'est quand même un tempérament.
C'est autre chose.
Ouais, c'est encore autre chose. Neymar a un côté fougueux. Neymar.
Rappelez-vous, si je ne m'abuse, c'était face au Paris Saint-Germain lors de ce fameux match retour où l'arbitre ne voit pas lorsqu'il donne un coup de pied, c'était Marquinhos je crois ou c'est je ne sais plus quel défenseur, l'arbitre ne l'avait pas vu alors que au ralenti on voyait un geste qui aurait mérité un jaune voire davantage. Donc oui, Neymar parfois
c'est sa manière d'être, il est un peu réactif mais enfin non. Il prend des coups et puis c'est un tellement beau joueur qu'on
le pardonne parfois. Mais le problème c'est qu'il pourrait être absent du classico parce que s'il prend un match de suspension
problème c'est qu'en sortant en quittant le terrain, il a applaudi en direction du quatrième arbitre, donc c'était une façon de compter.
Quelqu'un d'éduqué, il est bravo.
Exactement. Merci pour le carton rouge que vous m'avez donné.
Alejandro, c'est le classico. C'est l'affiche de la
dédicace. Espagne, on voit beaucoup de choses étranges et c'est pas impossible qu'il ait deux journées de suspension.
Vous avez raison, chérif, ça serait dommage pour le spectacle.
Ça m'étonnerait.
En tout cas, à Madrid, il y a donc eu ce derby madrilène et les merengues se sont finalement fait rattraper sur le fil. Sur le fil, c'était grâce à Antoine Griezmann. Alors, Antoine Griezmann, pendant la semaine qui a précédé ce derby, eh bien, on se demandait s'il resterait l'année prochaine parmi les Colchoneros ou, comme l'affirmaient notamment nos amis de l'équipe, n'est-ce
absolument,
pas Hervé?
Absolument.
Eh bien, vous affirmiez juste avant le derby.
Pas moi personnellement, mais effectivement.
Votre journal, donc voilà, qu'il pourrait aller l'année prochaine émarger du côté du Real. Ce qui est sûr, c'est que pour Diego Simeone, eh bien, ça ne peut que valoriser son talent.
Je ne sais pas où ira Antoine Griezmann. Parfois, les mots ne sont pas assez forts pour décrire la joie qu'il procure. Il ne s'agit pas seulement de ses qualités, qui sont énormes. C'est un joueur qui travaille dur, qui court beaucoup et qui travaille avec les milieux de terrain. Toutes ces choses me réjouissent, venant de n'importe quel joueur, mais encore plus de la part d'un joueur si talentueux. Quand un joueur donne tout ce qu'il a, comme le fait Antoine Griezmann, c'est un vrai plaisir de le voir jouer.
Quel que soit le club, quel que soit le maillot, c'est un plaisir de voir jouer Griezmann.
Évidemment, mais s'il passe au Real, imaginez que les supporters de l'Atlético, quel que soit le club, ils prendront pas cette phrase-là, ce bout de phrase-là en tout cas. Mais en revanche, ce qui se dessine visiblement, c'est qu'il resterait à l'Atlético comme Simeone, alors qu'une saison de plus comme Simeone, et après partirait au Real, ce qui permettrait, parce qu'en fait les deux présidents se détestent pas du tout. Les deux présidents,
c'est
à la fois de l'Atlético et
du
Real, alors qu'à une époque, c'était le cas quand même, faut le noter. Et là, aujourd'hui, toutes ces histoires sont planifiées et logiquement, ils se donnent un an. Peut-être que dès cette année, vous allez voir un premier joueur qui va partir de l'Atlético au Real qui pourrait être Hernandez, hein. Le jeune Hernandez, il partirait, ce serait la première salve et la deuxième Griezmann, parce qu'évidemment Griezmann, ça ferait un peu plus mal aux supporters de l'Atlético. Mais enfin, quand vous êtes Griezmann, on vous propose le Real, vous y allez. D'ailleurs, Simeone, qu'est-ce qu'il dit en gros? Il dit évidemment que s'il peut aller au Real, qui se priverait d'aller au Real?
Mais
c'est un discours vraiment justement intéressant de la part de Simeone en tout cas.
Quelqu'un, mais Simeone, il est prêt à partir aussi.
Mais visiblement,
on
n'est
pas sûr.
Mais cette année,
il va
rester l'année prochaine.
C'est l'ouverture d'esprit en tout cas de l'entraîneur par rapport à son joueur. En gros, si le Real le veut, évidemment qu'il y aille. C'est impressionnant aussi.
Mais Alejandro, quand même, c'est rare que des joueurs, surtout des vedettes, on voit les derniers grands buteurs que ce ont été Falcao, Torres, dans cette équipe de, ou le Kun Agüero, bien sûr, dans cette équipe de l'Atlético, ensuite, ils sont pas passés au Real.
Non, parce que je pense que Griezmann devra bien réfléchir avant de franchir ses pas, si jamais l'occasion s'est présentée.
Entre Calderon et Bernabéu.
On se rappelle à quel point la vie peut devenir un enfer pour quelqu'un qui franchit ce genre de frontières, disons. Hein. On se rappelle de Figo quand il avait quitté Barcelone pour
c'est
aller au Real. Ça a été très violent.
Oui.
Et à Madrid, même si les présidents s'entendent bien, ça ne veut pas dire que les supporters soient dans le même état d'esprit. Je pense aussi que c'est un peu étonnant de voir ces informations ou ces rumeurs sortir juste avant le derby. C'est assez fréquent de voir ce genre d'intoxication avant un match important pour déstabiliser un joueur.
Griezmann veut pas aller au parc en Espagne. Donc déjà les choix seraient précis.
Pas,
c'est le Barça
pas,
ou c'est le Real.
C'est vous qui
l'avez dit. Sa femme étant espagnole, ils se sent très bien.
Sa fille qui a eu un an hier.
Voilà, il se sent très bien en Espagne et on peut comprendre que vous êtes dans le championnat espagnol. Vous avez une culture espagnole. Parce
Mais
français,
même
exactement.
Hein,
mais non, parce que je veux dire, il a la culture sportive et footballistique espagnole. Donc, si on vous propose, vous avez quoi comme club quand vous êtes avec Diego? Vous avez deux. C'est soit Real, soit Barcelone.
Mais
il aura peut-être le choix entre les deux. Mais tant peut-être qu'il a envie de rester à Madrid aussi.
Non, mais Griezmann, dans sa tête, il est espagnol.
Bien sûr,
il dort espagnol, il rêve espagnol.
C'est l'Espagne qui lui a donné sa chance finalement et sa formation. Donc, c'est vrai que même s'il est de Mâcon, on sait tous que.
Et Mâcon, c'est pas n'importe où.
Même si on sait qu'il y a des clubs anglais, notamment un club anglais qui serait potentiellement intéressé par lui, en l'occurrence Manchester United. Après, lui préfère le soleil espagnol que
c'est
moins soleil, on va dire, anglais.
Il faut jamais oublier qu'un des éléments primordiaux pour le choix d'un club, c'est la femme. Attention, c'est capital. Hein,
pas que dans le foot, peut-être même.
Mais dans tout, foot, c'est capital. Donc, si sa femme, elle adore la vie madrilène, vous allez lui dire, tiens, tu vas vivre
à Manchester.
C'est autre chose. Elle va faire le Arndale Center, Arndale Center toute la journée. Au bout d'un moment, elle va en avoir marre des boutiques.
Oh, elle aura un petit jet privé pour faire l'aller-retour.
C'est possible.
Vous parliez d'Angleterre, Salim. Allez, on vous fait plaisir. Juste pour survoler cette journée, cette 32e journée de Premier League, est-ce qu'on peut dire une journée pour rien, Salim?
Oh, disons que Chelsea la prend quand même, puisqu'on se rapproche forcément de la fin, évidemment.
C'est une petite provocation.
Il n'y a plus que 6 journées,
ça brûle.
Oui.
C'est ça.
En tout cas, en Premier League, ce qu'on peut dire durant le week-end, pour le résumer, c'est que tous les grands ont gagné. C'est-à-dire que Chelsea, vous le soulignez donc, a gagné, et ça, c'était important pour continuer à garder l'écart avec le deuxième. Mais Tottenham a atomisé son adversaire 4-0. On a Liverpool qui reste troisième pour le moment, Manchester City qui est quatrième, mais on va s'intéresser à Manchester United, car les Red Devils ont remporté une belle victoire, 3-0 à Sunderland. Ils étaient réduits à 10 à Sunderland, donc ça a aussi beaucoup changé de choses, mais c'est la 7e victoire à l'extérieur de ces Red Devils, et c'est quand même important. En tout cas, ça les rapproche des Citizens. Est-ce que les Rouges vont devancer les Bleus? C'est une question peut-être qu'on peut se poser, Salim.
Oui, on peut largement se la poser, on se la posera encore.
Alors, je parle pas d'Arsenal, pardon. Je vous coupe, mais parce que Arsenal joue ce soir. Et ils ont des matchs en retard eux aussi et tout. Donc, ça peut beaucoup changer la donne, mais pour l'instant,
c'est
on...
C'est répression ce soir, hein.
On parle de l'instant T. Oui,
exactement.
Ils jouent à Crystal Palace avec un super Sacco, on le sait.
Mais c'est vrai que Manchester United est observé, surtout que United, il faut le rappeler, a un match en moins par rapport à Manchester City. Et puis, il y a également ce fameux City United qui aura lieu le jeudi 27 avril. Et c'est là vraiment.
Un autre classique.
Non, il n'y a pas forcément de nom, d'ailleurs, pour ça. C'est le derby, hein, le derby Manchester, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. Et en fait, United fait de bonnes choses, sous-entendu, en première ligue, avec ses 21 matchs de suite sans défaite. C'est quand même une performance pour la première de Mourinho sur ce banc d'United, de réussir à ainsi ne pas être battu, c'est une perf. Après, c'est dans les matchs même. Alors, vous évoquez ce 3-0 face à Sunderland.
Le contenu
est...
La manière.
Là, c'est plus délicat. C'est par séquence même plus indigent. On va le dire ainsi. Ibrahimovic, il a fait du bien quand même pour revenir parce qu'il marque sur les deux dernières rencontres, il marque deux fois. Face à Everton, il avait été très décevant. United avait été très décevant et lui aussi, mais il avait tout de même marqué. Donc, dans le contenu, c'est là où on est beaucoup plus gêné quand même par cette équipe de United.
Bon, en tout cas, dans le contenu, peu importe, ils ont ce Zlatan Ibrahimovic.
Ouais.
Et donc, Zlatan qui se sent un peu poussé des ailes de Brad Pitt. Et en tout cas.
Avec Pelou, vous voulez dire.
Zlatan ne recommence pas. Zlatan. Dernière fois que tu te compares à moi, s'il te plaît.
Zlatan qui marque.
Ibrahimovic. Powerful hit! And that's what Zlatan Ibrahimovic can do to you in a flash! A devastating goal for Sunderland to concede. What a finish.
I train hard. I keep focusing.
Je m'entraîne dur. Je crois en ce que je fais. Je crois en moi. Je ne suis jamais inquiet. Je joue mon jeu et je prends du plaisir. Et puis, vous savez, plus vous vieillissez, plus vous êtes expérimenté et intelligent. Donc, vous ne gaspillez pas de l'énergie sur des choses inutiles. Je me sens comme Benjamin Button. Je suis né vieux et mourrai jeune.
Like I said, I feel like Benjamin Button. I was born old, I will die young.
Il y a Brad Pitt, il y a aussi David Finzel, hein, qui fait très bien Zlatan Ibrahimovic. En tout cas, Benjamin Button, c'est what a finish, hein, parce que évidemment, il y a ce but, il y a aussi une passe décisive, hein, de la part de Zlatan Ibrahimovic. Mais, alors, pour les non-cinéphiles, quand même, on peut recadrer l'histoire. Parce que l'étrange histoire de Benjamin Button, c'est écrit par l'écrivain américain, le grand écrivain américain, Francis Scott Fitzgerald. Et ensuite, ça a été adapté au cinéma, donc, avec Brad Pitt en 2008, dans le rôle de ce Benjamin Button. C'est Zlatan dans toute sa splendeur.
Non, franchement, il nous manque quand même. Faut le dire, au championnat de France, il manque au championnat de France.
Ils ont du pot.
Il est arrivé là. Ah, ils ont du pot. Il est arrivé là-bas, tout le monde s'est dit, il est cramé.
Il est arrivé comme une légende, hein, vous avez
oui,
pas oublié.
Oui, absolument. Mais il est arrivé là-bas, tout le monde s'est dit, bon, allez, ça y est, le vieux, maintenant c'est terminé pour lui. Et puis vous voyez ce qu'il est encore capable de faire, ouais. C'est phénoménal.
Vous avez
dans son
pensé
intelligence.
Il n'y aurait pas d'effet Zlatan en première ligue.
Je sais pas quand même, franchement, parce qu'il arrive un an de plus qu'au Paris Saint-Germain. Le championnat d'Angleterre, c'est autrement plus dur que le championnat de France en termes d'intensité. Et je peux vous dire, je vais vous le dévoiler ça, il a dit à quelqu'un que je connais, il était un peu surpris finalement du niveau des défenses anglaises, parce qu'il s'attendait pas à être aussi bon. Entre guillemets. Donc lui-même était
un
petit
peu
surpris.
Mais c'est un peu le propre du football anglais aussi, c'est marquer plus qu'on en fait.
Si on fait le bilan de l'arrivée de Zlatan à Manchester United, ça a été un bon choix pour cette saison par rapport aux objectifs que Manchester United avait et Mourinho. C'était pas pour gagner le championnat.
C'était pour se qualifier pour la Champions.
Pour se qualifier au moins pour la Champions League. Là, après, il y a débat. Mais sinon, pour en revenir, Mourinho, je pense qu'il a été très très pragmatique. Il a pris les numéros 9 baraqués comme il les aime, les Drogba, les CR7, enfin les Cristiano Ronaldo. Il a choisi Zlatan pour au moins une saison. Il avait son numéro 9. Zlatan fait la saison qu'on attendait de lui. Il va tourner à peu près entre 15 et 20 buts. Donc, il aura fait sa saison.
Il en a 16. Il en a 17.
Ouais, entre 15 et 20.
C'est 17 à peu près. En première ligue. Il est quatrième au niveau des buteurs. Et il en a marqué 28 depuis le début de saison, par contre.
C'est à peu près ce qu'on attendait de lui pour un numéro 9 de Manchester United dans la première ligue. L'avenir, on verra. Pour l'instant, ils sont encore en course pour la Ligue des Champions. Ça va être dur, mais ils ont quand même gagné un titre, la Coupe de la Ligue. C'est un truc qu'on oublie, mais mine de rien,
ils sont en lice pas pour la Ligue des Champions pour être qualifiés l'année prochaine, mais ils sont toujours en Ligue Europa.
Ils sont en Ligue Europa.
Et ça, c'est important. Alors, il y a une chose, Salim, c'est que selon les statistiques, hein, Zlatan a marqué plus de buts depuis qu'il a 30 ans, c'est-à-dire en 5 ans, que depuis le début de sa carrière, entre 18 et 30 ans.
C'est ça. Et donc, sur la période...
Il se bonifie, ce Zlatan?
Alors, il se bonifie. Alors, certains diront comme Benjamin Button. Après, moi, je le verrais peut-être autrement. Vous voyez, sur les 5 années où il a joué. Donc il a joué au Paris Saint-Germain, mm-hmm. dans le championnat de France, qui est évoqué sur cette antenne très régulièrement, qui est parfois critiqué aussi parce que certaines équipes déçoivent et autres. Donc avec tous ces buts qui ont été marqués par le Suédois. Et donc cette première saison à Manchester United, oui, effectivement, c'est la première saison, c'est presque la surprise de la première saison. Au final, il surprend justement ses adversaires et réussit à marquer avec des défenses aussi anglaises qui ne sont pas forcément
non, puis
au top.
Toute
du
une
top.
Équipe qui joue pour toi, Salim.
Exactement. Ouais. Donc, même, au final, bah oui, quand vous observez ce parcours sur ces 5 années, est-ce qu'on est vraiment surpris qu'il marque autant, enfin qu'il marque beaucoup? Non, c'est pas une surprise. Qu'il marque autant peut-être.
Parce c'est lui qui marque les pénaltys et tout ça. Donc c'est quand même
donc,
lui le.
Objectivement, au PSG, il marquait beaucoup parce qu'au final, le club ne jouait que pour lui. Donc c'est tout sauf une surprise.
C'est pour ça que tu le prends et il tient son pari. Voilà, mais il remplit son contrat.
Je sais pas si vous aviez lu l'interview de José Mourinho dans France Football, qui était une superbe interview de Mourinho, et il expliquait, il l'a pris aussi parce que c'est un winner. C'est-à-dire que lui, il insuffle un état d'esprit dans une équipe qu'on peut même
pour
pas
cette
imaginer.
Cette saison, c'est le numéro 9 qu'il fallait.
Ah oui. Et puis surtout, il tire une équipe vers le haut.
Alejandro.
Oui, non, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, l'avantage d'Ibrahimovic, c'est qu'il n'a pas à fournir non plus de très gros efforts. Il participe pas vraiment à la récupération. Il le faisait pas non plus au Paris Saint-Germain. C'était pas du tout la même chose qu'on attendait de lui quand il était au Barça ou quand il était à Milan, etc. Donc, ça peut s'expliquer. Après, je pense que lui-même est conscient que tout ça n'a qu'un temps. Et aux États-Unis, on annonce qu'il va débarquer la saison prochaine à Los Angeles. Et je pense que ça va se terminer comme ça, oui.
Mais là, déjà, il a des signes de Benjamin Butonite, hein, parce que je l'ai vu à la fin du match, il suçait son pouce.
Oh, ça va mal,
là.
Bon bébé,
il va finir bébé, effectivement.
Mais en tout cas, pour
Ibrahimovic. Aux États-Unis, ça correspond bien. Il ira dans les parcs, d'attractions et de diversion de Floride.
Pour compléter votre propos, Réfé, effectivement, il y a donc en fin de contrat, là, avec Manchester United. Va-t-il prolonger ce contrat avec United ou donc tenter l'aventure LA? Ça dépendra aussi.
Il laisse planer le suspense.
Il,
hein.
il
l'entretient très bien, on le sait.
Exactement. Même si, d'ailleurs, c'était il y a quelques jours, où il expliquait que ne pas finir premier, c'est un échec. Alors là, quand United est cinquième, vous aurez compris ce que c'est.
Il voulait rester au PSG, hein, faut pas l'oublier. Hein.
Exactement.
Non, il peut y avoir même la tentation de Hollywood hein, pour lui.
Avec Zlatan, les choses sont simples. Soit il est titulaire à part entière, il peut pas être remplaçant. Donc, est-ce qu'on lui garantit le poste de titulaire l'année prochaine à Manchester United avec des objectifs plus ambitieux?
Ça dépendra sûrement du recrutement, chérie.
Si Antoine Griezmann arrive.
Non, mais c'est ça. S'il y a un numéro 9 qui arrive, Zlatan va aux États-Unis.
S'il le prolonge, c'est que Mourinho le veut comme titulaire.
Voilà, c'est tout.
C'est vrai.
Okay. Bah, ils connaissent la couleur en tout cas.
Il sera titulaire l'année prochaine ou sera aux États-Unis.
Merci messieurs d'avoir participé à ces débats de Radio Foot International. Merci aussi donc à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Et puis il y avait Richard Rifono qui était à la réalisation. Et on vous dit à demain pour la Ligue des Champions.